Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, début de la campagne électorale pour les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux du 23 décembre. Un lancement entaché par l'annonce de violence dans le Kasaï, région instable du centre du pays. Avec le mort samedi de militants faisant campagne pour un candidat du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. À Kinshasa, des milliers de personnes sont descendues mercredi dans les rues pour saluer l'arrivée dans la capitale du candidat commun d'une partie de l'opposition, Martin Fayulu, de retour d'un séjour en Europe. Et puis aujourd'hui, jeudi, le président Joseph Kabila a tenu une réunion du Front commun pour le Congo, le FCC, son parti. Il y avait l'équipe de campagne du candidat Ramazani Shadary. Et toujours concernant les élections en RDC, les États-Unis ont appelé mercredi à des scrutins crédibles et pacifiques dans le pays. Le point avec Raïssa Girondin.
La RDC a une occasion historique pour organiser une élection crédible qui mène à une passation démocratique et pacifique du pouvoir, a dit la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert. Des élections crédibles et transparentes aideront à soulager les défis humanitaires et de développement de la RDC, à améliorer la capacité du pays à attirer les investissements et à renforcer la stabilité à travers la RDC et la région, a-t-elle affirmé. La porte-parole a également affirmé que des élections transparentes écriraient un nouveau chapitre positif dans la longue relation entre la RDC et les États-Unis. Avec le début de la campagne, nous encourageons tous les acteurs à rester engagés en vers le processus, à mener leurs activités de manière pacifique et à s'engager à respecter les droits humains, les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques, a-t-elle ajouté. 21 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel.
Violence en Centrafrique, l'ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom, alias Rambo, comparaît demain devant la CPI, la Cour pénale internationale. Il a été transféré samedi dernier à La Haye, ce qui est une première pour un responsable centrafricain depuis le début de la crise dans le pays en 2012. Le point avec Morgane Guiriette.
Alfred Yekatom, 43 ans, est un ancien chef de milice anti-Balaka dans les banlieues sud de Bangui et alentour. Rambo, comme il est surnommé, est ancien caporal-chef de l'armée centrafricaine. La CPI affirme qu'il dirigeait environ 3000 combattants et pourrait être tenu responsable de meurtres, tortures et traitements inhumains, mutilations, attaques intentionnelles contre la population civile et des bâtiments religieux. Alfred Yekatom est le premier responsable centrafricain transféré vers la CPI depuis le début des atrocités dans son pays. Il est devenu député en 2016 et a été arrêté fin octobre après avoir tiré dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ce n'est qu'une quinzaine de jours plus tard que La Haye a émis un mandat d'arrêt et demandé à Bangui de le livrer. La majorité des leaders de l'ex-Séléka sont toujours à la tête de groupes armés et continuent leurs exactions. Jeudi, des combats entre anti-Balaka et un groupe de l'ex-Séléka ont fait au moins une soixantaine de morts à Lindao, dans le centre du pays. Une église a été brûlée avec un prêtre à l'intérieur, ainsi qu'un camp de déplacés de cette ville.
Agitation au Cameroun anglophone. Un prêtre kényan a été tué par balle mercredi à Kembang, dans la région du sud-ouest anglophone, théâtre de conflit entre les séparatistes armés et les forces de sécurité camerounaises. C'est ce qu'ont déclaré ce jeudi à l'AFP deux sources religieuses. Il n'y a pas eu de combat. Le prêtre était dans la cour de l'église de Kembang quand il a été tué, a souligné une autre source religieuse à Boya, chef-lieu régional du sud-ouest anglophone. Afrique de l'Ouest maintenant, à Ouagadougou, au Burkina Faso, deux personnes sont mortes dans un affrontement entre des Kogluego, membres d'un groupe d'autodéfense, et des bouchers à Tanguin, un quartier de la capitale burkinabé. Le récit de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Les affrontements ont éclaté dans l'après-midi vers 15h au marché populaire de Tanguin, au nord de la capitale burkinabé. Selon des témoignages, tout serait parti d'une action de représailles des membres du groupe d'autodéfense. Les Kogliogo se sont rendus à Tanguin, précisément au marché d'Arbria, pour en découdre avec des bouchers qui avaient roué de coups un de leurs membres le mardi, explique un témoin. Le maire de l'arrondissement appelle à l'apaisement. Anatole Bonkungu.
Nous, les responsables de l'arrondissement, nous demandons en tout cas et la tolérance, demander à toutes les parties de garder le calme.
Plusieurs affrontements, souvent mortels, ont eu lieu ces dernières années entre les Kogliogo et les populations. Le gouvernement, qui a plusieurs fois annoncé des mesures pour encadrer ces groupes, n'a toujours rien fait de concret dans ce sens. Les Kogliogo sont apparus ces dernières années pour, disent-ils, lutter contre l'insécurité dans le pays. Mais ils ont été plusieurs fois accusés de meurtre, de torture et autres violations graves des droits de l'homme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Côte d'Ivoire, le quotidien d'État Fraternité Matin va licencier près de la moitié de ses effectifs. Ce plan social massif doit prendre effet le 18 décembre. La direction parle de sa situation financière très dégradée et cherche ainsi à redresser ses comptes. L'ensemble du personnel tient son assemblée générale aujourd'hui pour décider de la suite à donner à cette mesure. Éric Manirakiza a joint à Abidjan le porte-parole du collectif des délégués du personnel de Fraternité Matin, Marc Yevou.
C'est la direction qui a établi ses critères, c'est elle qui a affiché la liste des personnes qui doivent partir. Donc je suppose qu'elle s'est installée dans les critères qu'elle-même a établis.
Des critères qui sont prévus par la loi du travail?
Non, non. C'est l'employeur qui veut voir des employés partis qui établit ses critères. Dans ses critères en fonction de ses besoins. Et c'est ce qui s'est passé ici en fonction des réalités du terrain. Donc ils ont établi leurs critères. Maintenant la question, savoir est-ce que toutes les personnes concernées entrent dans les critères. C'est là le gros point d'interrogation.
Donc pour vous, ce ne sont pas des critères objectifs?
En tout cas, il y a matière à discussion. Ça peut se discuter, mais quitte à l'employeur vraiment d'expliquer ou de donner la preuve de ce que les critères sont objectifs. Mais au vu de ce qui a été établi comme critère et surtout la liste des journalistes concernés par la mesure, je pense qu'il y a matière à discussion.
Qu'est-ce que vous contestez exactement?
Ce sont les délégués du personnel qui ont reçu le courrier du départ des personnes concernées. Donc les délégués du personnel vont informer l'ensemble du personnel au cours d'une assemblée générale. C'est après cette assemblée générale que nous aurons vraiment tous les éléments, quoi, puisque c'est eux qui vont nous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants en fonction des courriers qu'ils ont reçus.
Y a-t-il un paquet retour prévu pour les personnes qui vont partir?
C'est l'assemblée générale qui va décider de la suite à donner, quoi, à la situation. Et de façon consensuelle va décider de ce qui doit suivre.
Mais vous connaissez déjà les noms de ceux qui vont partir?
Oui, il y a une liste de 123 personnes.
L'entreprise parle des problèmes financiers. Est-ce que vous le vivez, vous le voyez?
C'est à partir du Conseil des ministres de novembre 2017 que nous avons été informés que l'entreprise a des difficultés financières.
Est-ce qu'il y a eu un audit quelconque, financier et organisationnel?
Nous n'avons jamais été associés à cela, donc je ne saurais vraiment vous répondre. Mais quand le gouvernement en parle, je suppose qu'ils ont des éléments sur lesquels ils s'appuient pour avancer cela. Donc je ne saurais vraiment vous le dire.
Il y a 32 départs volontaires selon la note de la direction.
Oui.
Est-ce que vous êtes au courant dans quelles conditions?
Les conditions de départ volontaires ont été affichées, le nombre de mois de pécule, tout a été affiché. Et donc, en toute responsabilité, ceux qui cherchaient à partir volontairement ont vu d'abord les conditions et c'est en toute responsabilité qu'ils se sont inscrits sur la liste. Les conditions étaient déjà connues de tous.
S'agit-il des conditions satisfaisantes ou...
Non, naturellement, pas des conditions satisfaisantes parce que le montant qui avait été prévu initialement par le gouvernement n'est pas celui qui avait été respecté. Là où le gouvernement avait prévu 1,4 milliard et l'ancien ministre de la Communication parlait de donner 24 mois de pécule en plus des droits légaux aux travailleurs qui partent, mais on est revenu à une opération avec 800 millions et donc les pécules partaient de 5 à 12 mois. Vous comprenez que ce n'est pas du tout réduisant pour des gens qui ont passé toute une vie dans une entreprise.
Manquiez-vous, porte-parole du collectif des délégués du personnel de Fraternité Matin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, les gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux pics de concentration dans l'atmosphère en 2017. C'est ce qu'a révélé ce jeudi l'ONU qui appelle à agir d'urgence pour inverser la tendance. Si l'on ne réduit pas rapidement les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, il y aura des conséquences irréversibles pour la vie sur Terre, a déclaré Peterita Allas, secrétaire général de l'Agence onusienne dédiée à la météorologie mondiale, l'OMM. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.